Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Alors pour RVM, je suis aujourd'hui à la ferme des Templiers à Mortefontaine. C'est une sortie historique organisée par la Société historique régionale de Villers-Cotterêts.
La ferme des Templiers est une ancienne commanderie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une commanderie et comment s'organisait-elle ?
Alors vous aviez une commanderie, elle pouvait avoir beaucoup de membres ou pas beaucoup de membres, être simplement une unité d'exploitation ou avoir beaucoup de Templiers chez elle. Ici, c'est un petit peu secret. C'est un petit peu secret parce que on sait qu'au procès, il y avait un commandeur, Robert de Cernay, et un prêtre, Jean de Mortefontaine. Donc, ça veut dire qu'à Mortefontaine, s'il y avait un commandeur et un prêtre, c'était une unité importante. Après, on ne sait pas si Mortefontaine, dès le départ, a appartenu à une très grande commanderie, une des plus grandes de France et d'Europe, le Mont de Soissons. C'était une très grande commanderie qui avait 15 membres, dont Mortefontaine à un certain moment. Et pour que tout ça marche, tout était très très réglementé, parce que ce sont des militaires, et leur domaine fonctionnait extrêmement bien. Ils fonctionnaient très bien parce qu'ils suivaient les innovations cisterciennes. En fait, on dit toujours que les Templiers sont les cousins germains des cisterciens. Saint Bernard a créé leur ordre, ils avaient une grande grande proximité avec les cisterciens. Leur architecture est évidemment cistercienne, comme vous le verrez, c'est-à-dire cistercien, pas de profusion, la simplicité, une dévotion à la Vierge Marie et aussi pas de chauffage. Et nous sommes ici tout près de Longpont. Je me suis toujours demandé pourquoi Mortefontaine, ici de ce côté-là de l'Aisne, très très loin de toutes les autres commanderies qui entourent le Mont de Soissons. Et vous voyez, leur maison c'est Assy, Ambrief, Mont-Hussard, Vieillarcy, Chasmy, Vailly, Chavonne, Oulchy, Billy-sur-Ourcq, Vaux-Saint-Nicolas, Fismes, Rosières, Passy-sous-Gemme, Châtillon. Vous voyez, tout ça donc dans un périmètre de 10 à 15 km du Mont de Soissons. Nous, ici, on est très loin. Alors pourquoi ? D'abord, ici, c'est certain que la proximité de Longpont a joué. Longpont avait une très très grande bergerie à Vauberon, la grange de Vauberon, qui était très connue. Une des plus grandes unités de moutons d'Europe au XIIe et XIIIe siècle, c'est-à-dire 2000 moutons. Vous vous rendez compte, 2000 moutons. Et pour protéger cette énorme bergerie, autre chose aussi, le chemin du pèlerinage de Sainte-Clotilde à Vivières, on a fait des dons aux Templiers pour qu'ils protègent ces biens de Longpont. Donc il y a une grande imbrication entre Longpont et Mortefontaine. Après, pourquoi ? Une autre raison. Mortefontaine faisait partie de la châtellenie de Pierrefonds et non pas du tout des comtes de Soissons.
Et quelles étaient donc les fonctions des Templiers ?
Alors, je vous ai dit qu'ils avaient une fonction économique essentielle, c'était la première fonction, c'est-à-dire de pouvoir réaliser des profits afin d'envoyer de l'argent à leurs troupes en Orient, mais aussi ils gardaient les routes, ils étaient des sortes de gendarmes. Ils accueillaient les pèlerins, ils faisaient l'aumône, ils recueillaient les templiers fatigués, blessés, ils recrutaient les jeunes templiers, ils les formaient. Donc vous voyez, il y avait quand même une activité assez importante dans une grande commanderie. Un domaine comme ici, il est sûr qu'il devait y vivre 30 à 40 personnes, pas 30 à 40 templiers. Peut-être qu'il y avait simplement une 7, 8 ou une dizaine de templiers, pas plus. Mais après, ils avaient énormément de personnel.
Je suis avec Alain Arnaud, donc, qui est président de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette société historique, s'il vous plaît ?
Bien, si vous voulez, c'est une des sociétés créées vers la fin du 19e, début 20e, dans l'esprit de la loi de 1901 et dans l'esprit du partage de la culture et des racines. Donc la nôtre est née en 1905. Nous avons donc 113 ans, une bonne vieille dame. Nous sommes tous des bénévoles.
Vous êtes combien ?
On est entre 150 et 200. Nous sommes ouverts à tout ce qui est découverte de la vie quotidienne, de la vie artistique, littéraire, architecturale bien sûr, donc à tout ce qui est à la fois histoire et patrimoine.
Très vaste.
Pour une zone géographique donnée.
Autour de Villers-Cotterêts.
On ne va pas s'intéresser à Soissons ou à Château-Thierry, il y en a d'autres pour le faire.
Pas terminé, oui.
Bon, voilà.
Sinon, aujourd'hui, nous sommes où donc ?
Alors aujourd'hui, nous sommes à Mortefontaine et il se trouve que l'une de nos adhérentes est propriétaire de la fondation prieuré commanderie qui représentait l'ordre des Templiers depuis le début du XIIIe siècle. Les Templiers qui ont mal terminé puisqu'ils sont beaucoup sont partis sur le bûcher grâce à Philippe le Bel. Et donc, ça fait partie de cet immense morcellement du Valois, puisque nous sommes ici en plein Valois, morcellement des terres, des propriétés, des habitations, des paroisses, entre la quasi-totalité des ordres religieux qui se sont implantés ici à partir du XIIe siècle. C'est-à-dire qu'on peut dire que tous les ordres religieux, soit résolument masculins, soit résolument féminins, soit quelquefois mixtes, il y a aussi des ordres militaires, des ordres soignants, tous ont voulu venir s'installer en Valois. Pourquoi ? Parce que ce Valois était le plus grand territoire royal de la région, donc en liaison directe avec les rois de France. N'oublions pas qu'il y a 13 rois de France qui vont constituer la famille des Valois. Donc c'est une question de sécurité, de solidité, de confiance. Et à partir de là, le Valois va se développer donc depuis 1213 jusqu'à la Révolution. Tout ce qui était dans les villages, propriété du clergé, il y avait beaucoup de choses. Vous aviez non seulement les églises, mais vous aviez les anciennes fermes. Les fermes monastiques du Soissonnais, ça existe et certaines fonctionnent encore. Vous avez les ordres soignants, puisque vous aviez des léproseries, vous aviez des maladreries, vous aviez des lieux de confinement de la maladie. On maintenait les gens à l'intérieur des murs. Et puis énormément, évidemment, la grande préoccupation, c'était la culture, donc la production, donc des éléments pour vivre.
Et donc, aujourd'hui, nous sommes à l'ancienne commanderie. Donc, elle nous fait visiter un petit peu l'ensemble du domaine et on va également se promener dans Mortefontaine, c'est
oui,
ça?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Parce qu'en fait, à l'origine, vous avez, dans la plupart des cas, c'est le curé qui vient occuper une église, qui, toute église, rassemble un certain nombre de maisons, qui constituent des paroissiens traditionnels, qui à la fois vont faire vivre la paroisse, vont faire vivre les terres, et après, le petit village se gonfle. Et quand sur le village arrive, où s'est déjà créé, un domaine monastique de cette importance-là, il est évident que ça peut faire exploser certains villages. Mais c'est très curieux de constater que la plupart de nos villages, on va dire 300, 400 villages minimum, ont tous dans leur histoire une congrégation religieuse, une appartenance à une grande abbaye extérieure. C'est souvent les abbayes de Soissons, Saint-Jean-des-Vignes, Notre-Dame, tout ça. Donc ça crée des liens, ça crée des échanges économiques, ça crée une certaine complicité, une certaine connivence. En cas de danger, par exemple, les gens se rassemblent. Et vous avez greffé là-dessus tout le pouvoir temporel, c'est-à-dire des seigneurs qui souvent peuvent avoir des troupes, qui souvent ont bâti des lieux protégés. Et tout ça, ça faisait vivre la région. Alors, ajoutez à ça le développement d'éléments de rapport agricole ou para-agricole. Je pense par exemple à la canalisation de certains rues en forêt sur lesquelles le propriétaire de la forêt pouvait faire abattre des arbres. Les arbres suivaient le lit du courant par la force naturelle. Donc, ça n'engageait pas de motrice, on va dire. Et ces arbres, à certains endroits, il y en avait un sur la vallée de l'Aisne, et un sur l'Our qui était chargé sur des bateaux à fond plat qui, toujours par la force naturelle, allait jusqu'à Paris. Ce qui veut dire qu'en fait, dans la haute époque, mais ça a commencé au 14e, 15e, Paris pouvait être alimenté par des arbres de la forêt de Retz, par les cultures du plateau Soissonnais, où nous sommes, par la pierre des carrières. Ce territoire du Valois appartenait au roi et à la reine de France. Quand Henri II, par exemple, a été tué dans son fameux tournoi en 1552, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la reine de France, Catherine de Médicis, qui est devenue régente du Valois, qui s'y est installée et qui a développé tout ça.
D'accord.
Parce qu'en même temps, elle était reine de France. Donc, elle a envoyé des arbres de son Valois vers sa ville, sa capitale, la ville de Paris. Ça ne lui coûtait rien. D'autant plus qu'elle avait offert le lit du canal de l'Ourcq au responsable de la ville de Paris. Donc c'était une économie extraordinaire.
D'accord. Hein,
ça marchait tout seul. Et bien, il y a des choses qui marchent encore. Le lit de l'Ourcq appartient toujours à la ville de Paris.
Ok. Merci pour toutes les informations. Et si les gens veulent participer à des sorties donc organisées par votre société historique,
c'est pas un problème.
C'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde.
On trouve les informations où?
Et bien, le plus simple. Nous, notre adresse, c'est 24 rue des Moustiers, à Villers-Cotterêts. Qui est en fait le siège du musée du Mât.
Il y a un site internet ou pas?
Il y a un site internet, absolument.
Bon, il suffit de taper Société historique régionale de Villers-Cotterêts et on trouve le site internet.
Vous trouverez. Donc au prix d'une adhésion annuelle, on organise entre 12 et 14 activités par an.
D'accord.
qui peuvent être des sorties comme aujourd'hui, qui peuvent être des conférences, qui peuvent être des contacts, des rencontres. Au mois de juin, on va dans la région de Laon pour voir quelques petits aspects qu'on n'a pas chez nous. Et pour que les gens élargissent un peu leur regard.
D'accord.
Voilà.
Okay. Bah, merci beaucoup, monsieur Arnaud.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Au plaisir.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à la ferme des Templiers, ancienne commanderie des Templiers, à Mortefontaine. Et cette sortie était organisée par la Société historique régionale de Villers-Cotterêts. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.